Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Notre foi, elle se vit. Elle ne fait pas seulement que de se dire. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, je vous ai annoncé Matthieu, s'il vous plaît, chapitre 20, verset 17. « Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit « Que veux-tu ? » ?»« Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. » Et il leur répondit « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et il ne sera donné qu'à ceux qui à mon père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Je vais vous poser une petite question. Comment s'appellent-ils les fils de Madame Zébédée ? Oui, il y en a un qui s'appelle Jacques, et l'autre ? Jacques et Jean, voilà. On aurait lu un autre évangile, c'était marqué. Et là, c'est pas marqué, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette parole que nous allons ouvrir. Et quand je vous ai parlé de choses pratiques, eh bien, nous voulons que ça soit pratique. Les pages de la Bible mettent en évidence et sans complaisance, et vous le savez aussi bien que moi, parce que vous lisez la parole de Dieu, toutes les aspérités du cœur humain. Et qui soupçonnerait, à travers toutes ces pages merveilleuses, tous ces récits fantastiques, qu'au sein même de la communauté des apôtres, il y ait eu des rivalités. On se dit, c'est un monde parfait, vous vous rendez compte, dans la présence de Jésus, il ne peut pas y avoir un nuage, et on s'aime. C'est formidable tout cela, naturellement. Notre texte nous en fournit finalement la preuve que c'est pas aussi bien que quelquefois notre imagination idéaliste nous suggère et nous emporte dans ces choses. L'Église apostolique, ou l'Église dans ses premières heures, a connu des frictions, à commencer par le drame de Judas, parce que là, c'était quand même le summum de ce qui peut être considéré lorsque nous vivons non seulement entre amis, mais entre frères. Et puis, l'Église, à travers des siècles, a été meurtrie profondément, nous le savons, parce que ça nous a été rapporté, par des querelles et par des divisions. Mais là, c'est dans la présence même du Seigneur, tout simplement, que le conflit éclate. Ils n'ont pas attendu que Jésus ait le dos tourné, même s'il a vu le dos tourné, il aurait su quand même les choses. Mais toujours est-il que c'est en pleine réunion, en pleine communion les uns avec les autres, et Jésus le maître au milieu d'eux, que finalement, le conflit va éclater. Heureusement qu'une telle affaire, et moi je bénis le Seigneur qu'il y a aussi des choses qui nous apparaissent, qui sont négatives au premier chef dans la parole de Dieu, et qui quelque part se tournent au bien, se tournent pour notre bien et notre enseignement, entre autres ce matin. Alors je dis qu'une telle affaire, qui nous est suggérée, nous entendons la manière dont Jésus va régler la situation. Et ça, c'est important d'avoir l'avis du Maître dans de tels conflits. Et ça va constituer naturellement un formidable enseignement pour les contestataires du moment, c'est-à-dire les deux en question, les deux protagonistes, mais également pour les 10 autres. Et puis, c'est une histoire quand même, il faut bien reconnaître, c'est qu'elle a été consignée dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, et pour nous dire que finalement, si elle a suivi un petit peu le cours de tout cela, c'est que nous avons besoin, certainement encore aujourd'hui, dans notre 21e siècle, eh bien, de recevoir cet enseignement. Et tous ceux qui pourraient être animés du même état d'esprit que Jean et Jacques, et puis de la maman aussi. Alors Jésus va remédier au problème, si je peux m'exprimer ainsi, en vertu d'un principe constant et fondamental qu'aucun croyant ou celui qui se dit croyant, disciple de Jésus-Christ, engagé dans l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre à quelque niveau que ce soit, que nous ne devons jamais oublier, c'est celui de l'humilité. Et nous allons parler ce matin de l'humilité version Jésus. Parce que ça, c'est quelque chose qui doit être bien noté. C'est vrai qu'il y a, eh bien, il y a tous les courants dans le mouvement des disciples de Jésus, quelle que soit leur famille, quelle que soit leur appartenance. Et nous voyons que quelquefois, il y a de l'humilité, mais ce que nous pourrions appeler une fausse humilité, qui n'est autre que de l'orgueil spirituel. Alors, on va voir un peu ce que cela veut dire. Toute l'Écriture le proclame. Nous avons un exemple dans le livre des Proverbes, et vous le savez, parce que vous pouvez le citer de mémoire. Si je vous dis 15:33, qu'est-ce que vous me dites? Je vous prends un peu de cours, hein, je vais vous le dire quand même. L'humilité précède la gloire. Hein, vous connaissez ça, naturellement. Ou encore, dans le Proverbe chapitre 29, verset 23, celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ce sont des choses fondamentales. Je crois qu'on n'a pas à se poser des questions avant de faire de la théologie ou de faire d'aller dans un sens ou dans un autre. Ce sont ces choses élémentaires, je dirais, que ce sont des vérités essentielles, fondamentales de l'Évangile. Alors c'est précisément l'objet du litige qui oppose des disciples autour d'une question que je nommerais, que je qualifierais de présomptueuse, qui est la suivante. Alors, la mère des fils de Zébédée, après avoir entendu parler Jésus qu'il allait être livré, donc il parlait de son départ, qu'il allait être mis en croix et puis tout le reste, alors elle s'est approchée gentiment de Jésus avec ses deux fils de chaque côté. Elle était fière, la maman, hein. C'est vrai que quand on a de beaux enfants, on peut être fier, mais ils étaient grands déjà ceux-là. Alors elle est venue et puis elle est toute réjouie et puis un rien de fierté, Madame Zébédée, et elle s'est prosternée. C'est-à-dire qu'elle y met les formes. Elle se dit, si je demande ça comme ça, debout, ça va peut-être pas aller. Alors moi, je me mets à genoux pour donner un petit peu plus d'amplitude à la demande, un peu plus de caractère à la demande. Alors, elle s'est prosternée pour lui faire une demande assez étrange. Et il lui dit, mais que veux-tu? Elle a attendu que Jésus lui dise, maintenant, demande-moi, oui, parle maintenant. Donc elle a quand même la déférence, Madame Zébédée, elle a été bien élevée, et elle dit, Jésus lui dit, mais que veux-tu? Et, comme elle a la porte ouverte, elle va pas se priver, elle va dire, ordonne. Oh là là! Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ordonnent au Seigneur? Ah oui, dit Seigneur, je veux que ça soit comme ça, parce que moi je pense que c'est comme ça, ça peut pas être autrement. Alors elle lui dit, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, ils sont beaux mes fils, ils sont mignons, que voici, soient assis dans ton royaume, permet l'un à droite et l'autre à gauche. Alors pour savoir qui sera à droite ou à gauche, je te laisse le choix, mais au moins qu'il soit assis à côté de toi, de chaque côté. Ah, il y a quelque chose qui apparaît à ce moment-là. C'est la gloire. La gloire, peut-être que ça pouvait sembler quelque chose de formidable. Seigneur, tu sais, tu as appelé mes fils, et moi je pense à ton royaume, je pense à la gloire qu'il peut y avoir dans ton royaume, mais je te demande au moins de souscrire à ma demande. Et vous savez, la gloire, d'une manière ou d'une autre, c'est l'objet de toutes les ambitions et la prétention des hommes. Alors on ne parle pas ça uniquement dans le domaine des choses spirituelles, mais dans le domaine de la vie. Je vous annonce une nouvelle, vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais il y a la Coupe du Monde en ce moment. Pas jouissage, parce qu'on n'entend pas trop parler. Et quelle gloire! Ah, dites donc, pour une couronne de laurier, mais enfin, il n'y a pas que des lauriers derrière, hein, de toute manière. Mais bon, mettons ça de côté, mais quelle gloire pour celui qui va être le premier, et ceci et cela, et on se glorifie de champion, etc., etc. Il y a des gens qui sont certainement très qualifiés, mais c'est la source aussi de beaucoup de conflits. Ah oui. être à l'honneur, être le premier, paraître, être vu. Et je voudrais quand même anticiper sur ce que Jésus va répondre, mais c'est quand même une situation, une position qui n'est pas sans danger sérieux. Vous avez entendu ce que nous dit le livre des Proverbes ? On n'oublie pas ça, parce que ça constitue des dangers. Et Jésus voudrait nous dire, parce que Jésus est bon avec nous, il nous dit, mais attendez, si vous marchez dans cette voie, mais vous allez avoir des problèmes, mais des problèmes que vous n'imaginez pas aujourd'hui, et non seulement vous allez avoir des problèmes pour vous-même, ça vous concerne, mais vous allez en créer autour de vous. Parce que ça, c'est indissociable. Des problèmes de caractère, à caractère moral, et des problèmes spirituels, quand il s'agit justement des enfants de Dieu. Et permettez-moi l'expression, mais la démarche que fait cette maman, ces deux garçons qui se laissent emporter par la demande et qui sont fiers de venir vers Jésus en disant « Mais peut-être que Jésus va nous accorder quelque chose de formidable », c'est s'asseoir sur un explosif. Dans l'évangile de Luc, j'aimerais justement lire au chapitre 14 quelque chose dont je pense que Jésus nous dit aussi, qui concerne notre réflexion. Au chapitre 7, 14, verset 7, il nous a parlé un petit peu de la manière dont nous pouvons nous comporter dans la société des enfants de Dieu. Alors Jésus adresse une parabole aux conviés, et voyant qu'ils choisissaient les premières places, il leur dit « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur que d'en les inviter une personne qui soit plus éminente, plus considérée que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne à te dire « Cède ta place à cette personne ». Et Jésus d'ajouter « Mais tu aurais la honte à ce moment-là ». D'aller occuper la dernière place, ça fait pas plaisir. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'aura invité viendra, qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Je voudrais lui donner une petite pensée. N'allez pas vous mettre à la dernière place en disant, je me frotte les mains sous la table en pensant qu'il va venir me mettre à la première. Parce que là, c'est de l'hypocrisie. Hein, on est d'accord. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui sont à table avec toi. Car quiconque s'élève sera baissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alors, on dit Amen, hein. Merci Seigneur, parce que là, on est d'accord. On est d'accord, ça c'est sûr. Il existe une gloire qui sera le partage béni du peuple de Dieu. Mais le chemin qui y mène, je dis bien, la voie qui nous conduit à cette gloire-là est tout autre que celui que nous avons l'habitude d'envisager. Nous envisageons un sentier, un chemin, mais en ce qui concerne les choses spirituelles, en ce qui concerne ce que nous sommes sur la terre, ce que nous faisons sur la terre, ce que Dieu veut faire peut-être avec nous, dans des choses peut-être glorieuses, mais pour lui, pas pour nous, alors à ce moment-là, c'est souvent à l'opposé de tout ça. Et ce chemin-là a pour mérite d'écarter le danger de nous prendre au sérieux. Ah oui, le Seigneur prend toutes les précautions parce qu'il ne veut pas nous perdre. Vous verrez quand il nous a sauvés à un prix inimaginable, et il ne veut pas que nous partions dans des dérives, dans toutes sortes de choses suscitées par notre propre cœur ou par rapport aux applaudissements des autres. C'est celui de l'effacement, de la mort à soi-même et de l'humilité. Seigneur, c'est une grande leçon que tu places devant nous. Un principe immuable et un vivant exemple, c'est la personne de Jésus, sa vie et son œuvre. En introduisant notre culte ce matin, nous avons eu un petit moment de prière et nous avons lu ce texte, mais permettez-moi, si ça ne prend pas trop de temps, je voudrais relire cette parole. Écoutez, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque esprit, quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et même quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, nous dit Paul, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Surtout, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ existait en forme de Dieu, et il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme rival, comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, parce qu'après la gloire, après l'humiliation, il y a la gloire. Écoutez bien. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Il y a des choses qui sont écrites dans la parole pour que nous puissions vraiment tirer profit. Ça, c'est important de nous en souvenir. J'aimerais faire une réflexion sur le mot humilité. Humble vient du grec humus. Vous savez ce que c'est que de l'humus? Vous avez planté des bégonias là ces derniers temps. Vous avez acheté des petits sacs de terre. Eh bien, c'est ça, c'est une terre qui a été préparée. C'est-à-dire que l'humus, c'est de la terre, tout simplement. N'est-ce pas en soi, lorsque Jésus nous enseigne sur l'humilité, un rappel significatif de notre état et de notre condition originelle ? Frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier que d'abord, dans un premier temps, nous avons été créés et sortis de la poussière, et qu'ensuite, la rédemption nous a trouvés dans nos péchés. Et nos péchés, c'est la terre, c'est la mort. La cause du mal dans la première séduction que nous avons naturellement, vous savez, exercée sur la créature humaine a été de croire que l'homme serait comme Dieu. Vous savez, le diable. Bon, tu sais, tu peux bien te passer de ce que Dieu a dit. Parce que, est-ce que réellement Dieu l'a dit? D'abord, la mise en doute. Et l'homme qui lui est poussière, eh bien, il s'est senti pousser des ailes à ce moment-là. Il s'est dit, mais moi je suis plus un homme de la terre, mais je suis presque un homme du ciel. Et il a perdu sa simplicité et s'est retrouvé au cœur de ce qui est devenu son péché dominant qui génère tous les autres péchés, ce que l'on appelle l'orgueil. Alors, on lui avait dit, enfin, le mauvais, le méchant lui avait dit « tu auras les yeux ouverts ». Effectivement, il a eu les yeux ouverts. Et qu'est-ce qu'il a vu à ce moment-là, l'homme désobéissant? Il a vu tout ce qui l'attendait, c'est-à-dire la mort, la destruction, sa misère, et il a lutté contre en disant « non, je ne l'accepte pas ». Parce qu'il ne voulait pas accepter, non pas sa condition, ses conséquences de son péché, mais il ne voulait pas accepter le péché lui-même. Alors il a eu les yeux ouverts, naturellement, et il est devenu orgueilleux. Il est devenu un être complètement en marge après. Il est sorti de la volonté du cadre de la volonté de Dieu. Il y a un fait à souligner, c'est qu'il y a une contestation qui éclate entre les disciples, pour revenir à notre texte, et il n'est pas moins surprenant d'y trouver un homme comme Jean. Est-ce que vous connaissez Jean? Jean, c'est le bon garçon. C'est celui qui a fait beaucoup de choses et qui nous a laissé des choses formidables. Et nous voyons qu'il est même au centre de la querelle, en quelque sorte. Dans Matthieu, c'est la mère de Jean et de Jacques qui fait la demande, tandis que dans l'évangile de Marc, vous voyez, il y a trois évangiles qui en parlent, je ne vais pas citer Marc tout à l'heure, ce sont les apôtres nommés qui s'adressent directement à Jésus et qui lui disent, eh bien, nous voudrions que tu nous assieds, eh bien là, quand tu viendras dans ton règne, à droite et à gauche. Alors on peut dire qu'ils partageaient entièrement l'ambition de leur mère. Ils étaient tous les trois d'accord sur la chose. Jean, un personnage très attachant. On le découvre. Et il est sympathique, Jean de l'Évangile. Pourtant, le doux et le humble Jean, eh bien, va se révéler quelquefois à ses heures comme un homme assez étrange et qui ne sort pas finalement, qui ne dénote pas de l'espèce humaine, malgré qu'il ait fait des choses et qu'il ait dit des choses formidables. Comme tout disciple de Jésus, il a fallu qu'il passe par l'expérience régénératrice de la Pentecôte, c'est-à-dire l'expérience profonde d'un baptême de mort pour ensuite ressusciter. C'est ça justement ce que nous avons besoin et ce que lui avait besoin. Et Jean le Doux, qui auparavant réclamait avec violente énergie que le feu du ciel descende sur les Samaritains inhospitaliers, eh bien là on le trouve dans toutes ses œuvres, dans la beauté de ce qu'il peut être en tant qu'homme. Enfin, beauté, façon de parler. L'humble Jean qui, en la circonstance, se croit déjà assis à la droite de son Sauveur, dans le royaume de Dieu, dominant princièrement sur ses frères et sur ses amis. Je ne suis pas n'importe qui, je m'appelle Jean, je suis fils de Zébédée. Je ai été choisi par Jésus, il m'a fait rentrer dans son royaume, je suis un disciple et je ne sais pas encore ce qui va m'arriver, mais il m'a promis un avenir glorieux, dans le ciel et sur la terre. Péché de présomption, parce que qui peut dire ce que nous serons demain, ce que nous ferons demain. Bon, on espère du bien, hein. Mais péché de présomption que celui de Jean. Il pêche contre Dieu, mais il pêche aussi contre ses frères. C'est pour ça qu'il y a eu après des vagues, parce qu'il pêche contre ses frères. Mais Dieu, qui est un Dieu béni, le Seigneur appelle des pécheurs pour les transformer. Et ça, c'est important. L'épître de Jean est un hymne à l'amour fraternel, à l'amour de Dieu. Mais j'y lis aussi des paroles et des expressions formidables, une élévation de pensée dans l'esprit qui met en évidence ce que peut être l'amour fraternel. C'est un mot qui existe, mes frères, mes sœurs. Même si quelquefois dans les églises ça a été escamoté, ça a été piétiné, ça a été bousculé, labouré, déchiqueté, néanmoins nous voulons croire que l'amour fraternel existe. Et c'est à nous de l'entretenir. C'est à nous de faire des efforts. Et quelquefois, on peut pas dire que c'est il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est approché de Jésus en disant, donne-moi la première place. Eh ben, ça suffit pour mettre à mort ou mettre à mal, finalement, ce beau principe de l'amour que Jésus a répandu dans nos cœurs les uns pour les autres. Il avait compris que le péché d'orgueil était auparavant la faiblesse de son cœur. Et l'orgueil nous fait croire que nous sommes bien. C'est pourquoi il écrira plus tard notre Jean régénéré, après l'expérience de la Pentecôte, dans son épître, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, » qu'est-ce qu'il répond ? « Nous nous séduisons nous-mêmes. » Parce qu'on n'a peut-être pas des péchés de grossièreté, on n'a peut-être pas des péchés qui se voient gros comme le nez au milieu de la figure, mais le péché d'orgueil, ça se voit pas. Enfin, quelquefois, ça se sent. Mais ça se voit pas comme d'autres péchés, mais c'est quand même un péché. Je vous dirais que c'est peut-être même le premier qui génère tous les autres, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous sommes bien, que nous sommes les plus beaux, les meilleurs, et ceci et cela, eh bien, peut-être que là, nous allons avoir des problèmes avec nous-mêmes, et surtout avec le Seigneur. Ça s'appelle de l'orgueil. Il avait compris, à la vue de la vie de son Sauveur, que la seule voie qui conduit à la gloire, c'est l'humilité. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. On a lu tout à l'heure, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est mis au niveau de notre humanité misérable. Ça, c'est l'exemple du Maître. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie n'est qu'illusion et vanité. La parole de Dieu demeure éternellement. Mais tout ça, ce sont des choses humaines. Lui, Jean, qui un jour demandait à être assis à la première place, à ce jour-là, ce moment-là, là où nous avons pris notre texte, il lui restait encore du chemin à parcourir. Ouais. Beaucoup de chemin à parcourir. Il pouvait peut-être être arrivé et peut-être penser qu'il était parvenu au fait, et finalement, il n'était qu'au départ. Il avait compris surtout que tout ce qui peut y avoir de répugnant et d'offensant dans l'attitude de celui qui veut jouer les coudes. Eh oui. Pour être le premier. Et vous savez, ça se fait dans le monde, ça. Ça se fait dans les familles. C'est déjà pas beau. Mais quand ça se fait dans le peuple de Dieu, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pas parce qu'on a une place, on a de l'argent, on a une situation, on a une promotion, on a un rôle à jouer, qu'on soit pasteur ou autre. On met ça de côté, hein, frères et sœurs. On est devant un maître qui attend que nous soyons humbles et modestes. Parce que si nous voulons faire de l'autorité dans cet état d'esprit, ce n'est plus de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. Et ça anéantit tout ce que nous sommes et tout ce que nous prétendons vouloir être de toute manière. Alors il l'a compris un jour, puisqu'il l'a écrit plus tard, beaucoup plus tard, il a eu le temps de l'écrire parce qu'il n'était pas jeune hein, quand il a écrit ses épîtres et puis le reste. Hein. Ouais. Être le premier, jouer des coudes. Bénissons le Seigneur pour la place qu'il nous a donnée. Et vous savez, si nous sommes humbles et que nous envisageons et que nous ambitionnons spirituellement dans la bonne forme, eh bien, quelque chose, mais le Seigneur va nous le donner. Mais à partir du moment où nous n'aurons pas compris cette leçon, nous allons rester derrière. Et c'est pas les hommes qui vont nous faire obstacle. C'est le Seigneur lui-même. Il va faire en sorte que nous soyons coincés parce que nous ne voulons pas franchir les étapes nécessaires pour apprendre, pour mourir à nous-mêmes, pour renoncer à nous-mêmes. Quelle leçon. Quelle leçon. Il y a un personnage étrange dans la Bible. Vous avez déjà entendu parler de Diotrephe. Alors, on en parle une fois, dans une des plus petites épîtres de la parole de Dieu. C'est un homme qui reçoit une lettre de l'apôtre Jean. Ben oui, c'est Jean, alors. C'est assez curieux parce qu'il s'est trouvé confronté avec cet homme. Et dans la parole de Dieu, il nous est parlé, donc on va relire ça un petit peu ensemble. Diotrephe, c'est un chrétien. Et L'étymologie, la signification de son nom, ça veut dire nourri par Jupiter. Vous avez jamais entendu cette expression sorti de la cuisse de Jupiter? Vous savez ce que ça veut dire? Quand on dit à quelqu'un qui a quelquefois qui s'est un petit peu envolé sur les ailes de la présomption, on lui dit, et quand même, faut pas exagérer, il est pas sorti de la cuisse de Jupiter, celui-là. Vous connaissez? Et diotrèphe, c'est un nom grec qui veut dire nourri par Jupiter. C'est-à-dire que, bon, il était peut-être bien pétri d'amour personnel, d'amour propre et d'orgueil, naturellement. Alors, on va voir ça. Ça se trouve dans la troisième épître de Jean, versets 9 et 11. Je vous donnerai pas le chapitre, hein, il n'existe pas. Alors voilà ce qu'il nous est dit. C'est intéressant de prendre en considération cela. Verset 9. Troisième épître de Jean, verset 9. « J'ai écrit quelques mots à l'Église, dira-t-il. » C'est Jean qui parle. « Mais, Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » C'est-à-dire qu'il fermait la porte à l'apôtre Jean, moi je le connais pas, c'est moi qui suis le patron ici, et j'y reste. « C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les empêche et les chasse de l'Église. » Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Voilà. Alors moi j'aimerais donner un profil du personnage qui est Diotrèphe pour comprendre un petit peu notre réflexion ce matin. Son profil, je dis tout de suite que Diotrèphe aurait gagné à rester dans l'ombre. Mais son comportement, eh bien là, nous provoque un examen de conscience. Parce que des diatrèphes, ça existe dans le peuple de Dieu. Voilà un chrétien qui est très actif et très entreprenant dans l'Église. On peut pas lui reprocher de ne pas être consacré. Non seulement il est là, il est partout et il fait tout. Il devait être certainement assez volumineux, moi j'imagine, hein. Toujours est-il que c'était pas des moindres consacrés. Mais pour lui, à la condition d'avoir la première place. Vous lui dites maintenant, Diotrèphe, tu vas prendre l'aspirateur, enfin, ça n'existait pas l'époque. Mais tu vas prendre l'aspirateur et tu vas faire le nettoyage dans l'église. Alors à ce moment-là, non. Vous connaissez ma personne. Vous pouvez dire que je ne peux pas me salir les mains à ceci. Alors il avait bien commandé, mais il n'aimait pas faire les choses. Donc à condition d'avoir la première place. Son défaut, ça c'était son problème numéro un. Toute autorité auquel il est confronté avec ses frères et ses sœurs, parce qu'on sera toujours confronté avec des gens, ça c'est normal, et Dieu le permettra. Eh bien, l'autorité le gêne. La supériorité de quelqu'un dans son environnement, eh bien là, de quelqu'un d'autre à ses côtés, l'offense et lui fait de l'ombre. Moi, j'ai connu ça dans le ministère, et je suis obligé de le dire, mais dans certaines situations, et quelquefois même des collègues, c'est terrible, hein. Eh bien, parce que on faisait les choses simplement, et moi je ne veux pas faire les choses parce que je montrais ce que je fais. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Et j'ai vu quelquefois, eh bien, certains autour de moi, eh bien là, véritablement prendre ombrage. Et puis, par-delà prendre ombrage, entreprendre toutes sortes de choses, de dire, de faire pour manifester le mécontentement et peut-être au-delà. Vous savez, le Seigneur est un soleil de justice. Et avec lui, il n'y a pas d'ombre. Diotrèphe est le chef de file de ceux qui identifient l'Évangile et l'œuvre à eux-mêmes. Moi, 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 et tout doit passer par moi. Si ça ne passe pas par moi, ça ne sera pas bien fait. Alors vous comprenez que c'est difficile, parce que bon, on est quand même enclin et on est appelé justement à faire confiance dans l'amour aux autres. C'est normal, me semble-t-il. Jésus a choisi 12 avec lui pour partager. C'est normal. Alors on comprend que tout ce qui touche à l'Évangile, c'est lui, finalement. Pour satisfaire leurs ambitions, eh bien ces gens, comme dit Diotrèphe, eh bien ont cette réaction. Quand ils ne peuvent s'imposer, ils s'interposent. C'est ça le problème, parce que bon, peut-être que quelquefois, ils ne sont pas toujours là au fait, et puis dans la note spirituelle, il y a quelqu'un qui vient et qui lui dit « mais ça devrait peut-être être comme ceci, comme cela ». Alors à partir du moment où on fait de l'ombre, alors eh bien là, ne pouvons pas justement dire maintenant c'est comme ça et c'est ceci, parce qu'ils n'osent pas toujours le faire ouvertement. Alors ils vont faire des toutes sortes de méandres, ils vont s'interposer. Les diotrèphes agissent dans l'Église comme s'ils avaient reçu mission de police. Comprenez ce que c'est, ça ? C'est-à-dire qu'il faut que ça marche comme ils le pensent. Tant pis s'il y a des choses qui sont un petit peu écorchées, si la sensibilité de certains, si on oublie un peu la miséricorde et la compassion, on se dit non, c'est comme ça que ça doit marcher. Mission de police. Ils jugent, ils condamnent, ils meurtrissent, ils déchirent, forts de leur droit d'être et de dire, parce que y a que ça passe par eux. Il faut toujours être d'accord avec eux, c'est la pensée unique, sinon attention. Hein. Moi je n'envisage pas l'Église comme ça, frères et sœurs. Non. Il y a le Seigneur qui est souverain sur son Église, le Saint-Esprit qui conduit l'Église, Jésus-Christ qui est au centre, au cœur. Et puis nous sommes ses serviteurs. Ses serviteurs. Qu'avons-nous reçu qui nous ait été donné par le Seigneur? Et si nous avons reçu des dons, si nous avons reçu des aptitudes, mais Seigneur, c'est pour ta gloire, c'est pas pour moi. Surtout de grâce. Parce que là, c'est du vol à ce moment-là. Les Diotrephes rappellent à l'ordre, ou sinon plutôt à leur ordre, ceux et celles qui prétendent penser et croire différemment. Ce sont des gens qui ont une conception assez étroite dans la pensée. Frères et sœurs, le Seigneur a créé la multiplicité et la variété dans son œuvre. Et quelquefois, il y a des gens que nous ne comprenons pas, mais pensons que, eh bien, ce sont des enfants de Dieu aussi, que Dieu les a sauvés. S'ils sont nés de nouveau, s'ils se sont repentis, on ne pourra peut-être pas toujours vivre en tous ensemble, ça c'est certain. Mais en tous les cas, au moins respectons-nous, et je dirais plus que le respect, aimons-nous les uns les autres. Les Diotrephes encombrent de leur personne les couloirs des églises et du royaume de Dieu, de leurs idées, et ils pensent avoir la haute main partout et surtout. C'est ça, Diotrephe. Pourquoi ça a été écrit dans notre texte? Parce que ça existait. Et l'apôtre Jean, qui lui, un jour, est venu vers Jésus en disant « Je veux être le premier », ben, Jésus ne lui a pas dit à ce moment-là, bien, un jour tu rencontreras dans ton ministère. Tu verras, je te ferai rencontrer un homme formidable. Il s'appellera Diotrephe et tu verras qu'il te barra la route lui aussi. Parce qu'il avait besoin d'apprendre ça aussi. Et vous savez, que ce soit dans le monde du travail avec une hiérarchie ou d'une manière ou d'une autre, on sera confronté. Si on a un petit peu d'orgueil, Dieu permettra. Ce sera peut-être pas forcément dans l'église, mais à l'extérieur. Avec des gens qui ressemblent à Diotrephe et là nous comprendrons. Vous savez que Jacob a compris ses grandes leçons quand il s'est retrouvé en face d'un Laban. Hein. Parce que Jacob était un rusé, mais alors, Laban, il en tenait une couche. Hein. Franchement, parce que lui en plus, il n'avait pas la foi en Dieu. Hein. C'était un idolâtre et un païen, je peux vous dire qu'il en a mis à son gendre. Hein. Mais il ne valait pas mieux l'un que l'autre, mais après il a compris, hein, Jacob. Restons dans l'humilité, frères et sœurs. Jean souffrait de ce qu'il avait fait souffrir. Et si quelquefois nous n'en prenons pas la mesure et nous ne le faisons pas méchamment, mais tôt ou tard, Dieu va mettre sur notre route des gens, des circonstances et des situations où là, nous allons percuter à un moment donné en disant « Oui, je souffre depuis des semaines, depuis des mois, mais est-ce que dans ma vie passée, je n'ai pas fait la même chose ?» Et c'est là où on commence à changer. On y passe. Lors de leur première rencontre, Jésus avait donné un nom à Jean et à Jacques. Il les avait appelés Boarnégès. Vous savez ce que ça veut dire ? Fils du tonnerre. On passe, on fonce. On passe même quand les portes sont fermées et les fenêtres closes. On passe quand même Boarnégès. À cause de leur impétuosité. À la fin de sa vie, Jean avait bien changé. Nous le connaissons maintenant sous le caractère de l'humilité quand nous lisons ses épîtres. Mais nous revenons au texte, au verset 22. Jésus répondit à la question de Madame Zébédée, « Vous ne savez ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Le sentier de la gloire dans la réponse pleine de sagesse et de perspicacité que Jésus donne, le sentier de la gloire que nous ambitionnons passe nécessairement par l'épreuve et la souffrance, frères et sœurs. Si nous voulons dire « Seigneur, gloire à toi, tu es saint, tu es merveilleux, etc. », il faut vous attendre, frères et sœurs. Eh bien, que vous passiez, que nous passions par l'humiliation. C'est pas possible autrement. La gloire magnifique de Jésus avait été précédée de la plus terrible des humiliations. Ça a été Gethsémané, ça a été Golgotha. Et tout ça, ça s'appelle la honte. On est loin de la gloire. Nous remarquons également que Jean et Jacques vont avoir l'outrecuidance de répondre affirmativement à la question de Jésus. Et sans un doute, sans sourciller, ils vont dire « Bon, pourquoi tu nous poses une question comme ça ? On le peut. » Et quelquefois, vous savez, on est sur des sentiers qui On ne s'en rend pas compte. Moi, je veux bien croire, hein, on ne s'en rend pas compte. Mais le Seigneur nous conduit sur des sentiers qui, là, vont nous rocailleux, périlleux. Et puis on dit, Seigneur, mais je suis chrétien depuis 2 mois, je suis déjà un vieux chrétien. Je suis chrétien depuis 20 ans, 30 ans, mais Seigneur, mais pour moi, ce n'est que facilité. Tu peux me le demander, tu peux me demander même de faire tout ce que tu veux. Alors ils répondent pareil, ils disent, mais nous le pouvons. Comme ça, sans autre réflexion. C'est une confiance qui est pleine d'ignorance et qui par surcroît est excessive en eux-mêmes, qui démontre bien leur méconnaissance de la véritable humilité. Il y a des gens qui quelquefois ont prononcé ces paroles. Vous savez, bon, j'ai pas toutes les qualités, hein, ça c'est sûr, mais il y a une qualité que j'ai, c'est l'humilité. Alors quand vous dites que vous êtes la première qualité que vous avez, c'est l'humilité, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, hein. Parce que ça ne dit pas. Ça ne se dit pas que les autres te louent et non pas ta bouche, nous dit un psaume. Souvenez ça. Les deux disciples ne reculent pas devant la perspective de souffrir, bien qu'ils ne sachent pas ce que ça veut dire souffrir. Ils n'écoutent que leur sincérité et leur courage sans penser un instant à leur faiblesse. Il y en a un autre comme ça qui s'appelle Pierre. Seigneur, j'y vais, je fonce. Le Seigneur lui dit, tiens, tu connais ce que c'est qu'un coq? T'as déjà entendu chanter un coq? Le sentiment permanent de notre faiblesse sera le meilleur pédagogue pour nous enseigner l'humilité. Et quelquefois, le Seigneur nous tient avec des afflictions. Il nous tient avec une sciatique. Il nous tient avec des migraines, avec des névralgies. Il nous tient avec ces petites choses comme ça. Et il nous dit, ben voilà, tu sais, ça se voit pas, mais quelquefois, il y a des barreaux et notre vie. C'est encore pour nous protéger, c'est une grâce de Dieu. On n'aime pas ça, hein. On n'aime pas ça. Alors, faut comprendre que les choses peuvent être comme ça, et puis le Seigneur a certainement quelque chose. Pourquoi se révolter? Parce que nous ne sommes pas bien, parce que nous sommes malades, parce que il y a ceci et cela, mais faut pas nous révolter. Faut dire, Seigneur, je te remets ma situation, et puis tu feras ce que tu voudras de moi. Quoi qu'il en soit. Notre zèle, notre sincérité, notre ferveur, notre courage, aussi louable puisse-t-il être, toutes ces vertus ne seront jamais aussi éducatrices que l'humble sentiment de notre propre faiblesse. On peut avoir du zèle, on peut avoir beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Mais une chose que nous ne devons jamais oublier, c'est qu'il y a une chose qui prime devant le Seigneur, c'est l'humilité et la conscience que nous sommes faibles. Bien Seigneur, tu sais, quand je dois monter sur l'estrade, eh bien je tremble, même après quelquefois 30 ans de ministère. Ouais. Puis il y a ceux qui montent en courant, puis qui redescendent la tête basse. Vaut mieux monter la tête basse et puis redescendre normalement. Hein, parce qu'on risque de rater des marches, il y en a 3, mais on peut se faire du mal quand même. Non, mais c'est vrai. Hein. Seigneur, donne-moi ta grâce pour que je comprenne quelle est ta volonté et quelle est l'instruction qu'il y a derrière toute ma vie. Sentiment qui nous pousse à nous confier davantage et toujours dans le Seigneur. Seigneur, je ne me sens pas tellement capable de le faire. Et je te demande que tu viennes m'aider à compter sur ta grâce seule. Alors Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. » Jésus va pas démentir. « Oui, vous allez la boire, la coupe. » Et la coupe, ils l'ont bu. Ils l'avaient demandé, ils l'ont eu. Parce qu'attention, hein, il y a des prières que quelquefois qui sont différées, que nous n'avons pas tout de suite, mais il y a des prières que nous demandons au Seigneur et qu'il va nous donner tout de suite. Ils l'ont bu, Jean suivra Jésus jusqu'au pied de la croix. Et il sera emprisonné, il finira sa vie en exil. Dans sa grande vieillesse, dans l'île de Patmos, la coupe, il l'a eue. Et puis Jacques, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il sera le premier à connaître le martyr parmi les apôtres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents Jacques, mais là, c'est celui-ci, fils de Zébédée, frère de Jean, qui, dans le livre des Actes des apôtres, me souvient-il, au chapitre 13, il nous est dit que Hérode lui fit couper la tête. Alors, la coupe, il l'a bu. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Vous avez vu l'humble dépendance de Jésus par rapport à son Père? Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de mon Père. Et il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Vous rendez compte, Jésus Tout-Puissant ne va même pas prendre la réponse. Il va dire, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui va, lui, faire les choses. Jésus veut faire comprendre à ses disciples que la condition pour occuper une place éminente dans le royaume de Dieu n'est ni l'arbitraire, hein, ni déterminé à l'avance. Eh oui. Ni déterminé à l'avance, c'est Dieu qui ouvre les portes, c'est tout. Et quelquefois, il faut pas chercher à ouvrir les portes quand elles sont fermées. dans certains cas. Je dis bien dans certains cas. Et quelquefois, quand il y a des blocages, alors on s'en prend à un frère ancien, ou on s'en prend au pasteur en disant « Il ne veut pas, il me bloque la route !» Mais c'est pas moi, c'est pas nous qui bloquons la route. C'est nous qui prétendons, qui nous bloquons la route nous-mêmes. Et le Seigneur a dit « Quand c'est fermé, c'est fermé. » Tu auras la porte ouverte quand tu commenceras à comprendre cette leçon fondamentale. Parce que dans le ministère, si c'est pour faire des dix au trèfle, je dis « Misère et malheur à l'Église ». Moi, quelquefois, je souffre pour l'Église, pour les Églises. Je me dis « Mais oh là 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 !» Un pasteur qui manque de régénération, qui n'est pas capable d'entendre ceci et cela, je me dis « Mais qu'est-ce que ça va être pour les chrétiens ? Ils vont prendre plein la figure. » Excusez-moi, l'expérience nous a montré, hein. Je n'invente rien. Et quelquefois, on met des gens comme ça, « J'ai un ministère, allez, tu rentres dans le ministère, et puis c'est tout. » Comme ça, et souvent avec des décisions sentimentales. Mes frères et mes sœurs, c'est plus sérieux que ça. Et priez pour que les hommes qui se lèvent soient des hommes appelés par le Seigneur, et non pas appelés par le pasteur. Il faut qu'ils aient l'assentiment de l'Église, comme Paul quand il est allé à Lystre, et il nous a dit qu'en ce qui concerne Timothée, Timothée avait le témoignage des gens de Lystre, de l'Église de Lystre. Si moi je mets quelqu'un sur l'estrade ou je mets quelqu'un dans le ministère parce que c'est un garçon gentil, parce qu'il y a ceci et cela, mais moi je vais avoir des comptes à rendre avec le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a dit, tu as mis quelqu'un, tu as placé quelqu'un, moi je t'ai pas demandé de le placer. Pour l'instant, c'est moi qui vais le placer. Et ça fait quelquefois des dégâts. Bon, il y a des frères, on en parlait mercredi, excusez-moi, moi je le dis maintenant, peut-être qu'on me mettra, on dira maintenant, il faut que tu en ailles. Mais moi je sais qu'il y a des gens qui sont dans le ministère, qui n'ont pas de ministère, qui n'ont jamais été appelés par le Seigneur. Et ça c'est terrible. C'est terrible parce que nous, nous réparons après. Enfin, nous, excusez-moi. Non. Excusez-moi, je retire ça. Mais quelquefois, il faut passer derrière et il faut refaire les coutures. Hein. Que de souffrance, moi, quand je vois des églises qui sont en train de se vider, qui sont en train de se en hémorragie. Parce que finalement, les choix ont été des mauvais choix, des choix qui sont des choix humains, des choix sentimentaux et non pas des choix de l'esprit. Je me dis, mais je vois des églises qui se vident. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est terrible. Tout ça parce qu'on veut faire plaisir. Non, cherchons à faire plaisir au Seigneur et pas aux hommes. Et je m'égare, mes frères et sœurs. Alors, ça commence par l'humilité. Il faut que l'âme y soit longuement préparée par un développement constant où deux éléments s'imposent, la souveraineté de Dieu dans un appel et la fidélité de cette âme. Œuvre de sanctification, marché de progrès en progrès. Et il y a des hommes, des jeunes hommes qui sont en train de se préparer actuellement. Et on ne parle pas d'eux, et heureusement. Parce que si on commençait à parler d'eux, ils sont déjà fichus dès le départ. Priez, mes frères et sœurs, que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. Verset 24. Là où les sentiments de la véritable humilité sont absents, là se trouve tout ce que le cœur humain a de mauvais et de susceptible. Les dix, ayant entendu cela, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce qu'il l'avait dit publiquement, nous voulons être à droite et à gauche, furent indignés des deux frères. Et bien c'est comme ça que commençait l'illusion. Madame Zébédée, ses deux fils, Jésus, nous voulons être à droite, à gauche de toi, et puis les autres ont entendu. Et là, il nous est dit que ça fait surgir un volcan. Rumeur, murmure, a remarqué que l'indignation des dix n'était pas non plus le fruit de leur humilité, parce que s'ils se sont révoltés contre ce qu'ils ont entendu, c'est que eux-mêmes n'étaient pas humbles, mais plutôt celui de la jalousie, du jugement sans appel et de la critique. Et ça, ce sont des pestes au milieu du peuple de Dieu. Je parle pas des hommes, hein, mais je parle des sentiments. La jalousie, et puis la rivalité, la critique. Et ça mit les dix en fureur et en colère. Et ça, c'est vraiment le contraire de ce que nous sommes appelés à vivre. Répandez l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Et là, c'était pas tout à fait le but à atteindre. Esprit de dispute et de vaine gloire. De telles frictions entre chrétiens n'auraient pas lieu d'être si chacun se rendait aux exhortations de la parole. Comme dans Philippiens, « Rendez ma joie parfaite, nous dit Paul, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée, une même âme, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant en dessous de vous. » Ah non, je me suis trompé, c'est au-dessus, excusez-moi. « Au-dessus de vous-même, Romains chapitre 2, verset 3. Au-dessus. Même le plus simple et le plus humble parmi nous, elle ou lui, c'est mon frère, et je n'ai aucun droit de le mépriser parce que il y a ceci et cela. Il mérite notre attention. Il mérite que nous l'aimions. C'est un devoir de l'aimer. À partir du moment où je commence à monter sur une chaise, c'est sûr que je suis plus haut que lui. Jésus n'approuve ni l'ambition orgueilleuse des premiers, ni l'indignation coupable des seconds. Il les appelle tous à lui pour leur livrer ce que doit être la vraie grandeur du disciple et l'esprit dans lequel doit être vécu l'évangile. Alors Jésus leur a dit à tous, aux deux, Madame Zébédée y compris, et puis les 10 autres, il leur a dit, venez voir, j'ai quelque chose à vous dire. Vous n'avez jamais compris encore ce que je voulais, ce que vous auriez dû comprendre depuis longtemps. Jésus les appela, nous dit le texte, et il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Voilà la réponse de Jésus. Le royaume de Dieu ne doit pas être en aucun cas ce que le monde est. Et si nous faisons l'œuvre de Dieu en nous calquant sur les méthodes qui se passent en entreprise, qui se passent dans les familles, qui se passent dans le monde, qui ne connaît pas Dieu, alors là nous nous trompons, c'est-à-dire, eh bien nous allons tomber dans l'abus d'autorité, dans le pouvoir par la force, la contrainte par la crainte, l'écrasement des petits, la rigidité de la loi, l'absolutisme. On a fait la Révolution française pour que l'absolutisme disparaisse, on sait ce que c'est, hein. Eh bien, quelquefois, eh bien, on le retrouve. Et ça, ce n'est pas normal. Le monde fait comme il veut. Il n'a pas la lumière et la connaissance des règles divines. Mais nous, que nous fassions pire que le monde, ça, ça passe pas. Ça ne passe pas. Tout pour flatter et exalter la gloire et l'orgueil des dominateurs. Et je vais bientôt terminer. Il n'en sera pas de même parmi vous, nous dit Jésus. Parce que quand ça existe, eh bien, nous avons à réagir. Alors attention à la manière dont nous allons réagir aussi. Si ton frère mérite d'être repli, il faut le faire avec compassion, il faut le faire comme il se convient, d'une manière spirituelle. Toi qui es spirituel, nous dit l'apôtre Paul, reprends ton frère, mais le faire spirituellement. Non pas pour l'écraser, le faire taire en disant il commence à prendre un peu trop de place, mais pour l'aider à évoluer spirituellement. De lui dire, mon frère, tu vois, il y a ceci, il y a cela, mais on va t'aider parce que c'est pas tout à fait, tu n'es pas tout à fait dans l'esprit en le respectant naturellement et en faisant qu'il évolue, mais dans le bon sens. Il n'en sera pas de même parmi vous. Jésus est formel. C'est pas une approximation, c'est quelque chose de formel. Notre autorité émanera tout entière de l'Esprit de Dieu. Un esprit, je le rappelle, de sagesse, un esprit de grâce et un esprit d'amour qui se fondera sur la vérité et sur la charité. Parce qu'on peut toujours dire des vérités, mais s'il manque la charité, ça ne sert à rien. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Ça, c'est quelque chose d'assez humiliant. Je veux être grand, bien moi je suis au service des autres. Et il n'y a rien de plus impudent lorsque nous voyons des gens qui ont une petite autorité dans le monde, hein, on appelle ça des petits chefs, qui veulent se donner de l'importance, et qui quelque part, eh bien là, essaient de jouer des coudes pour ceci et cela. On a des réactions hein, par rapport à ces gens-là. Ils ne font que se prêter à être méprisés. Parce qu'on connaît leur faiblesse, on connaît un petit peu, et on connaît surtout l'état d'esprit et la motivation qui est derrière. Telle est l'échelle des valeurs aux yeux de Dieu. Tu veux servir ? Alors à ce moment-là, ne t'imagine pas que tu vas être le prince, mais tu vas être l'esclave. Voilà. Vouloir être grand, c'est descendre. Je le dis, vouloir être grand, c'est descendre. Et s'abaisser, vouloir la première place, c'est choisir la dernière. Et c'est servir les autres. Et vous savez, Jésus, en nous disant ça, il nous dit à chacun, c'est à prendre ou à laisser. Tu veux, ou alors tu laisses. La conclusion, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors, comment y parvenir ? C'est très simple. C'est très simple, comme à la mesure où on se laisse conduire par le Seigneur, naturellement. Parce que là, il n'y a pas de conflit hein, avec nous-mêmes, si on dit Seigneur, oui, voilà. C'est une interrogation personnelle, en quelque sorte, hein, au-dessus de vous-même. D'abord, frères et sœurs, il ne faut pas chercher à se mesurer avec autrui. Mes frères, mes sœurs, si je regarde, les comparaisons sont délétères. Lorsqu'on a une fonction quelque part, même par rapport dans l'œuvre de Dieu, Dieu me demande d'être moi-même et il ne me demande pas d'être l'autre ou comme l'autre. Alors ça, c'est très mauvais. Donc, il ne faut pas chercher à se mesurer avec toi. Puisse-t-il avoir plus ou moins ce que, finalement, ce que nous voyons chez lui ? Parce que ça, c'est de l'émulation et puis qui entraîne naturellement de la rivalité. Deuxième point, puissions-nous raisonner en sentant notre misère et notre indignité profonde, puisque tout est grâce. Et cette grâce, c'est Dieu qui me l'a donnée. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui ? Pasteur, parce que c'est Dieu qui m'a fait grâce, c'est tout. Rien de plus. Je n'ai rien mérité. Je n'ai rien fait et je ne mérite rien. Point final. C'est tout. Et je ne vais pas maintenant me décliner avec ceci et cela parce que non, je n'ai rien. Et c'est vrai, je le dis et je le pense profondément. Alors, que je sois ceci et cela, et non, c'est terminé tout cela, c'est fini. Troisième point. Quand bien même nous aurions à nous comparer au plus vil des malfaiteurs, alors j'ai choisi le plus mauvais là, hein. Quand bien même nous aurions à nous comparer à l'homme le plus abject qui soit. Alors à ce moment-là, nous avons deux questions à nous poser. En quoi suis-je par nature meilleur que lui ? Oh bien sûr, il a tué, il a volé, il a fait toutes sortes de choses. Je pourrais toujours dire, moi j'ai pas tué ni volé. Ça, c'est possible. Mais je dois me poser quand même la question. En quoi suis-je par nature meilleur que lui ? Parce que la réponse est la suivante. S'il avait été à ma place, celle que Dieu m'a donnée, possédant ce que je possède, ne serait-il pas meilleur que moi, meilleur que je le suis aujourd'hui ? Avec ce que je sais, ce que Dieu m'a donné, peut-être que le plus vil aurait été meilleur que moi, finalement. Et puis, dans l'autre sens, si moi j'avais été à sa place, dans sa misère et dans toute cette abjection qui est dans sa personne ou autour de sa personne et dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, ne serais-je pas devenu pire que lui ? Tout est une question de temps et de circonstances, mes frères et mes sœurs. Je n'ai rien de plus que les autres. Parce que si j'avais eu le cheminement qu'il a eu, pas de parents, parents d'alcooliques et ceci et cela, mais moi, si j'avais été confronté, j'aurais peut-être été pire que lui. Comprenez, il faut pousser la réflexion, hein, parce que c'est bien de dire, voilà, ceci, cela, il y a des paroles gentillettes dans l'Évangile, mais il faut aller plus loin dans la réflexion. Et ça, ça nous ramène à nous-mêmes, et ça nous ramène forcément à l'humilité. L'humilité est plus proche de l'amour que de la justice. L'humilité, c'est quelque chose qui va bien avec l'amour. L'amour de mon Dieu et l'amour de ceux que Dieu aime et que le Seigneur m'appelle à aimer aussi. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous donne sa grâce. Qu'il nous aide les uns et les autres. Et que plus jamais, jamais, jamais dans nos églises on entende parler de ces questions. Je veux être assis à droite ou à gauche. Attendez donc que le Seigneur nous donne la place sans la prendre nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que, en effet, Seigneur Jésus, tu nous as donné la preuve la plus magnifique de l'humilité, de ce que Dieu, Dieu qui tend les sanctuaires célestes et la gloire inimaginable et infinie du ciel, est venu marcher, Seigneur, dans la poussière de la terre et dans notre poussière d'homme. Seigneur, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, je peux ouvrir la bouche, non pas pour dire « je », mais pour dire « Seigneur, tu es merveilleux. Ta grâce est merveilleuse, ton amour est merveilleux, ton évangile est merveilleux, ta parole est merveilleuse, ton enseignement, Seigneur, est glorieux. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce qu'en effet, Père éternel, Seigneur, tu nous rappelles que celui qui s'élève sera abaissé, que celui qui s'abaisse sera élevé. Alors nous voulons être de ceux qui voulons être élevés. Et pour cela, Seigneur, tu nous as montré le chemin le plus court, le chemin, Seigneur, qui nous est indiqué, c'est de nous abaisser et de dire, Seigneur, moi je n'ai rien pour moi, mais tout pour ta gloire. Alors le reste, c'est toi qui t'en occuperas. Merci, Seigneur, merci, Jésus, parce qu'en effet, Père éternel, nous voulons pas oublier, Seigneur, que tu nous as choisis alors que nous étions pires, pour que nous devenions meilleurs. Et qu'en pensant, Seigneur, que nous sommes les meilleurs, alors à ce moment-là, nous allons faire le pire. Révèle-toi et manifeste-toi dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple à Saint-Nazaire, bénis ton peuple à Redon, bénis notre peuple, Seigneur, bénis nos églises. Bénis, Seigneur, en effet, Père éternel, ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui, eh bien, d'un cœur sincère, invoquent ton nom, Seigneur, et t'aiment, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avons besoin de faire l'unité autour de Jésus, et non pas autour de ce que nous représentons d'une personne, ou d'une église, ou d'un mouvement, mais autour de Jésus-Christ, afin que Jésus soit élevé. Alors il faut qu'il croisse, et que moi je diminue, Seigneur. Merci, mon Sauveur. Amen.